Alors, nous reprenons le livre aux Éphésiens. Ça fait un moment qu'on est dans le livre aux Éphésiens, vous avez remarqué? Et on a fait un petit détour dans le sujet du combat spirituel du croyant, qu'on trouve en Éphésiens chapitre 6 et verset 10. Et finalement, chaque fois que nous reprenons le sujet de ce thème du combat du croyant, nous relisons le passage, et ce que nous allons faire encore ce matin, si vous voulez bien. Au reste, donc, Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alors nous sommes dans la série du combat du croyant que l'on regarde en Éphésiens chapitre 10 et chapitre 6 versets 10 à 20. On a défini comme texte, merci de faire bouger la diapo, on a défini comme plan, le combat du croyant, la puissance du combat, Éphésiens 6, versets 10 à 11, l'ennemi du croyant, on a regardé à Satan, sa personne, ses titres, ses noms, au travers des noms, on a vu sa nature, sa puissance, ses ruses, son armée, et on est en train de regarder en annexe, en quelque sorte, les chemins donnés au diable. Alors, si on regarde en Éphésiens, et chapitre 4, c'est ça. La Bible dit au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le Seigneur nous a donné des armes pour combattre l'ennemi et nous allons voir cela tôt ou tard, dans les dimanches à venir, Dieu voulant. Il nous a donné sa ressource, sa puissance, il nous a donné de comprendre qui est l'ennemi pour mieux le combattre. Mais il nous avertit aussi de ne pas donner accès à l'ennemi. L'ennemi a assez de facilité et de ruse pour nous attaquer, sans nous rendre compte peut-être, nous donnons accès à l'ennemi pour qu'il ait de l'emprise sur nous. Et donc c'est un avertissement que le Seigneur nous laisse au travers d'Éphésiens chapitre 4, verset 26, ne pas donner accès au diable. Et on a regardé dimanche après dimanche qu'il y a plusieurs facettes ou plusieurs accès possibles que le croyant ou le non-croyant puisse donner à l'ennemi. Et c'est ce que nous regardons depuis un certain temps, donc les chemins d'accès donnés à l'ennemi. Il y a toute une liste qu'on a définie ensemble. On est parti avec tout d'abord la colère, les émotions, les sentiments. Donc le principe, c'est que le croyant peut donner accès à l'ennemi. On a vu aussi que dans l'indécision, que votre oui soit oui, que votre non soit non, il y a possibilité dans l'indécision de donner accès à l'ennemi. On a vu l'idolâtrie, notamment l'amour de l'argent, qui est un accès à l'ennemi, la désobéissance, le manque de maîtrise, notamment la tentation, la pensée, et on a vu la dernière fois l'occultisme. Alors je rappelle aussi qu'on développe le thème en regardant un texte de base, un exemple biblique type des conséquences et les recommandations donc pour éviter de donner accès à l'ennemi. Avec cette merveilleuse promesse, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il faut reconnaître qu'en tant que croyants, bien-aimés, nous devons combattre malgré nous ce combat de la foi. Et parfois, être assailli par l'ennemi dans nos pensées, dans nos émotions, dans les circonstances de la vie, dans les blessures, dans les épreuves matérielles, physiques et spirituelles. Et nous devons apprendre à combattre, comme disait Paul à Timothée, le bon combat de la foi. Donc, on a vu la dernière fois qu'on pouvait donner accès à l'ennemi au travers de l'occultisme. C'est juste un rappel de la dernière fois. On a vu des exemples bibliques et on a vu évidemment que le Seigneur nous recommande de ne pas donner accès à l'ennemi et d'éviter les pratiques occultes. Et on a défini toute une liste et je vous ai laissé en photocopie, je ne sais pas s'il en reste au fond de la salle, la liste de pratiques occultes qui est assez nombreuse et qui parfois séduit ces pratiques occultes nombreuses personnes sans qu'elles sachent qu'elles sont vraiment en train de se lier ou de donner accès à l'ennemi. On a parlé depuis l'horoscope, la visite chez les marabouts, les guérisseurs, les magnétiseurs. Enfin, il existe tellement de listes de possibilités que je crois que je vous avais donné à peu près une soixantaine ou même 70 de listes tirées d'un petit ouvrage qui est là pour combattre l'adversaire. Et aussi une prière type de docteur en théologie, Victor Matthews, qui est enseignant aussi. Et tout ça vous avait été laissé la dernière fois lorsqu'on a parlé de vaincre l'ennemi et de justement ne pas donner accès à l'ennemi au travers de l'occultisme. Ce matin, nous allons voir la façon avec laquelle Satan essaie d'avoir accès dans nos vies par la séduction. Autrement dit, la convoitise de la chair. Et je vous invite à tourner le passage clé qui est très connu, n'est-ce pas? Et c'est là où on voit qu'Adam et Ève ont donné accès à l'ennemi. Ils se sont laissés séduire par l'adversaire. Et le texte nous est rapporté en Genèse chapitre 3. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles en Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Dont le but du diable et sa ruse, ça a été de mettre en doute la parole de Dieu et même de mettre en doute la parole de Dieu, de faire Dieu menteur. Et de transformer aussi la parole de Dieu. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont été tentés, qu'ils ont mangé de ce fruit interdit, ils ne sont pas morts physiquement, mais il y a eu une séparation d'avec Dieu spirituelle. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors Satan est jaloux de Dieu, Satan veut se faire égal à Dieu, Satan veut prendre le pouvoir sur ce que Dieu fait ou détruire ce que Dieu fait. Et là, il séduit Ève pour lui dire, voilà, vous serez comme des dieux. En fait, le but de Satan, c'est de se faire Dieu et de se faire adorer comme Dieu. Ce qui fait qu'il y a dans le monde des églises occultes où on adore Satan. Il veut se faire égal à Dieu, donc Dieu se fait adorer en esprit, en vérité, et Satan désire se faire adorer par toutes sortes de moyens. Et vous connaîtrez le bien et le mal, il suscite l'orgueil et une intelligence dont il n'avait pas du tout besoin pour faire la différence entre le bien et le mal, vu qu'il ne connaissait que Dieu et que le bien. La femme vit, convoitise des yeux, que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, les deux sont responsables, parce que Adam n'aurait pas dû comment dire, céder à la tentation déjà que sa femme avait consommée, et Ève n'aurait pas dû écouter la parole du diable qui finalement a infiltré dans ses pensées une autre pensée que celle de Dieu. Et c'est exactement ce que le diable essaie de faire dans nos vies, d'essayer de nous attaquer par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les conséquences de donner accès au diable, on les connaît tous, parce que malheureusement, on est issu d'Adam et Ève, desquels on a hérité une nature pécheresse. C'est terrible cela. Parfois on se dit, mais si Adam et Ève n'avaient pas péché quand même, la vie aurait été plus facile. Dieu, dans sa souveraineté, a permis que le diable tente Adam et Ève et que malgré tout ce qu'ils connaissaient, ils tombent et entraînent finalement l'humanité dans la chute et dans une nature pécheresse que nous tous, nous avons hérité ce matin et que nous n'avons pas voulu naître avec. Les conséquences ont été terribles, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Donc ils passent de l'âge de l'innocence, dans le vrai sens du terme, une innocence de pureté, vers une connaissance, vers le mal. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, Dieu ne les abandonne pas, au contraire, et va leur parler. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, que je me suis caché. » Il y avait une intimité extraordinaire entre Adam et Ève, les premiers êtres créés sur la terre avec Dieu. Aucune crainte, ce n'est une relation de confiance et d'amour et d'intelligence spirituelle et d'intelligence. Adam et Ève avaient donné le nom à tous les animaux sur la terre, certainement les êtres les plus intelligents qui existaient dans ce monde. Et puis, quand ils pêchent, ils s'enfuient. Et c'est la même chose dans nos vies, lorsque nous pêchons, nous fuyons quelque part la face de Dieu avant de réaliser que nous avons besoin de retourner vers le Seigneur, de confesser notre péché, de nous repentir. Mais c'est Dieu souvent qui vient nous chercher là où nous sommes, pour nous ramener à lui. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, aïe, 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 m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Dans le premier péché, on dit du mari, c'est de pointer le doigt sur son épouse. C'est elle qui a tort, c'est de sa faute. Quelqu'un dit, lorsqu'on pointe le doigt envers quelqu'un, il y en a trois qui nous regardent. Et c'est vrai que parfois, quand mari, en tant que mari, lorsque nous accusons nos bien-aimés, eh bien, nous devrions d'abord faire un mea culpa, parce que bien souvent, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que le Seigneur demande. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voilà, ce n'est pas ma faute. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Adam avait la responsabilité de ne pas suivre Ève. Et Ève avait la responsabilité de ne pas écouter le diable. Face au diable, on a une responsabilité. On ne doit pas être passif, mais on doit être actif dans le combat et ne pas être absorbé les attaques de Satan comme une éponge, mais lui résister avec fermeté, sachant que nous avons la responsabilité d'exercer notre foi et de résister au diable. Résister au diable, dit la Bible, et il fuira loin de vous. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. » Il parle du serpent, évidemment, « et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, il est question de la crucifixion de Jésus-Christ. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, les deux conséquences ici, pour l'homme et la femme, c'est la souffrance dans les grossesses et l'homme qui domine sur la femme. Et puis ensuite, le travail dur. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc la conséquence, douleur de grossesse, domination du mari sur l'épouse, travail dur à la sueur de son front et finalement la mort physique, la mort qui est la physique et la séparation de l'âme et du corps, de la déchéance. Même si Adam et Ève ont vécu des centaines d'années, l'homme est mortel et déjà de vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans de nos jours, c'est une longévité extraordinaire. Il y a eu donc des conséquences terribles et certainement uniques à cause du fait qu'Adam et Ève aient donné accès à Satan. Il y a, par contre, dans la Bible, l'opposé de ce qu'a vécu Adam et Ève. En fait, la Bible nous dit que Jésus est venu comme le second Adam, en quelque sorte, et lui n'a pas cédé à la tentation. Alors, je donne deux textes de base, après on va aller dans des choses plus pratiques, mais il y a une comparaison à faire entre ce qu'ont vécu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où ils ont été séduits, où ils sont tombés, et la tentation que Jésus a eue dans le désert, envoyée par le Saint-Esprit. Et il est vrai que parfois, dans nos vies, nous-mêmes, on est attaqués, et Dieu permet certaines épreuves. Et Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, lui-même par l'Esprit Saint, a été envoyé dans le désert pour résister au diable. Alors, on va lire le texte, si vous me permettez. Un autre texte, allons-y ensemble. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Tenté dans le sens d'être éprouvé. De même que notre foi est éprouvée, testée dans les épreuves. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, c'est normal qu'après avoir tant jeûné, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Convoitise de la chair, tu as faim. » Donc, demande à ces pierres de venir du pain et tu mangeras à satiété. Vous savez, après avoir médité souvent ce passage, il m'apparaît clair qu'une des ruses essentielles du diable, on va voir, qui tente Jésus, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, mais une des ruses du diable, ça a été dans cette tentation vis-à-vis de Jésus d'enlever la si possible, la dépendance qu'avait Jésus envers Dieu le Père. Jésus pouvait tout faire, mais étant Dieu incarné, il s'est soumis à la volonté de Dieu le Père. Il a accepté de se soumettre en toute chose à Dieu le Père et d'accomplir la volonté de Dieu le Père. Et Dieu le Père n'avait pas dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Satan voulait provoquer Jésus de faire quelque chose qui soit indépendant envers Dieu le Père. Et Jésus, comment lui a-t-il répondu ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Il n'a pas agi de lui-même. Et face au diable, il faut reconnaître que nous devons utiliser aussi la parole de Dieu pour faire face à un ennemi qui est plus grand que nous. Nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes de vaincre le diable, si ce n'est par la puissance de Jésus-Christ. Je ne me souviens plus quelques anecdotes que je vous ai données, mais je peux vous dire que j'ai connu différents cas de personnes tourmentées par le diable qui savaient que le seul espoir qui leur restait, c'était d'être délivrés par Jésus-Christ. Après avoir vu des psychiatres, des psychologues, avoir pris toutes sortes de médicaments, alors parfois c'est nécessaire, je m'entends, mais il y a un combat spirituel que seul Jésus-Christ délivre, ou dans lequel il nous protège, ou des liens que Jésus-Christ délivre par sa puissance. Amen. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et dit, si tu es fils de Dieu, est-ce qu'il était fils de Dieu? Bien sûr, il met encore en doute là, Jésus-Christ, encore pour essayer de le rendre indépendant de Dieu. Jette-toi en bas, car il est écrit, donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà, il voulait lui donner, en regardant la ville sainte par les yeux, la convoitise de posséder ce que, de toute façon, il possédait déjà. Vous savez, parfois, dans certaines expériences spirituelles, il y a des gens qui sont conduits à voir plus ou par eux-mêmes que ce qu'ils vivent, alors que déjà, on a tout pleinement en Christ. On doit faire attention que dans notre recherche d'expérience avec Dieu, ou marche avec Dieu, on est centré sur une personne, Jésus-Christ, et non pas à la recherche d'expériences que l'on pourrait soi-même provoquer, qui serait une expérience de la chair, tout en étant, en ayant une couverture soi-disant spirituelle. Et puis le diable transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Satan voulait donner, soi-disant, par l'orgueil de la vie, tenter si possible Jésus-Christ, comme s'il avait été possible de tenter notre Seigneur par l'orgueil de la vie, je te donnerai tous ces royaumes. Alors, et si tu te prosternes, comme si Jésus-Christ ne possédait pas tout cela. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Et nous devons simplement, façon de parler, garder nos yeux fixés sur le Seigneur lorsque le diable nous tente de différentes façons. Vous avez compris l'idée ici, c'est que le diable tente l'homme et la femme de différentes façons, par le mensonge, la ruse, mettre en doute la parole de Dieu, la séduction. Et donc, il faut réfléchir sur comment combattre l'adversaire. Lorsque la tentation arrive, la Bible dit que nous devons combattre le diable par la parole de Dieu. Je vous ai déjà donné cette anecdote, il me semble, lorsque une petite fille à qui on disait « Qu'est-ce que tu fais, toi, quand Satan frappe à ta porte ?» Et la petite fille de répondre « Ben, j'envoie Jésus répondre à ma place. » Et lorsque Satan frappe à la porte de nos cœurs ou de nos vies, nous devons lui répondre par la parole. Nous devons envoyer Jésus-Christ, mais Jésus-Christ nous envoie avec sa parole aussi. Et nous devons ainsi combattre l'adversaire. Donc, premièrement, dans ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est utiliser la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Nous devons nous exhorter les uns les autres et combattre la tentation par la parole de Dieu. Si nous sommes tentés, nous devons aussi apprendre à confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que dit 1 Jean ? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Satan est un tentateur, mais il est aussi un accusateur. Non seulement il nous tente pour nous faire tomber, mais s'il a réussi à nous faire tomber, après il nous accuse comme si nous devions rester dans cet état d'accusation et de culpabilité. Mais Jésus-Christ est notre avocat auprès de Dieu le Père. Et c'est lui qui combat, qui prie même pour nous jour et nuit contre les accusations du diable. Il en a beaucoup à faire sur nous parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous purifie et sur cette base-là, l'ennemi est rejeté, la culpabilité cesse et l'accusateur est chassé parce que nous sommes pardonnés. Nous devons croire, exercer la foi, que lorsque nous chutons, nous nous repentons, Dieu nous pardonne. C'est merveilleux d'être pardonné par Dieu. C'est l'inverse d'être accusé par l'ennemi. Dieu exerce son amour et nous pardonne. En Romains chapitre 12, versets 1 et 2, un autre passage aussi, la Bible nous exhorte à nous donner entièrement, corps, âme et esprit. Alors, je sais, je vous mitraille peut-être un petit peu de passage, mais c'est un thème qu'on développe à l'instant ce matin, sur la tentation. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera d'autre part un culte raisonnable. Raisonnable dans le grec, logique. Il est logique de se donner à Jésus-Christ après qu'il nous ait sauvés. L'apôtre Paul décrit dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains le salut merveilleux de Dieu, notamment le salut de chaque être humain, mais aussi d'Israël, dans la mesure où on a la foi, où on se convertit, où on l'accepte. Et la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses que l'on doit fuir. Il y a des choses dans les journaux qu'on ne doit pas lire. Il y a des choses à la télévision qu'on ne doit pas regarder. Il y a des choses à la radio qu'on ne doit pas écouter. Il y a des conversations que l'on doit fuir. Il y a des paroles qu'on ne doit pas entendre. Et on ne doit pas fréquenter des gens qui vivent dans le péché ou dans la débauche, qui plus est, qui se disent chrétiens. On doit s'éloigner d'eux et doit s'éloigner aussi de ce qui provoque des divisions. Le Seigneur nous met à part. Être sanctifié, c'est d'être mis à part pour nous garder pour lui. Non seulement d'utiliser la parole, de confesser notre péché, de ne pas nous conformer au monde, mais de nous donner corps, âme et esprit. Et vous savez que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, au chapitre 6, nous dit que nous sommes morts en Christ. Même si on ne le ressent pas, c'est une vérité. La Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, il a englouti la puissance du péché et nous avec, notre nature pécheresse. La puissance de la nature pécheresse, notre nature pécheresse, nous l'avons toujours, mais la puissance du péché en nous a été brisée à la croix. Jésus-Christ a brisé la puissance du péché. Et en Romains chapitre 6, versets 12 et 14, il nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Qui nous pousse à la convoitise? C'est le diable. Il peut utiliser nos corps comme un instrument de convoitise et nous devons garder nos corps dans la sainteté. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains chapitre 10 nous dit, chapitre 12 nous dit que notre corps maintenant est le temple du Saint-Esprit, ça c'est en Corinthiens, et que nous devons donner tout notre être comme un sacrifice qui lui est agréable, un sacrifice vivant. Et pour avoir la vie, il faut avoir la vie de Jésus-Christ en nous. Mais quand on a la vie de Jésus-Christ, on se donne et on donne, comme on a chanté tout à l'heure, le meilleur en Christ, nous-mêmes, afin de nous consacrer à lui. On devient un sacrifice vivant. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix d'aller où je veux aller. Je n'ai pas le choix d'entendre ce que je veux entendre. Je n'ai pas le choix. Je dois laisser Christ choisir au travers de moi. Me consacrer à Christ, c'est le laisser maître et seigneur. Il est le maître, je suis le serviteur, esclave, doulos, qui a donné le mot douleur. Je suis maintenant esclave de Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Se donner à Dieu tout notre être. La Bible dit, je reviendrai en 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, pour conclure avec ça. Aussi, la Bible dit en Jacques, chapitre 4, si vous tournez en Jacques, chapitre 4, et versets 7 à 10, j'ai marqué, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Face à la tentation, face au diable, Dieu nous dit de nous humilier et de résister au diable, mais en même temps de ne pas lui donner un accès, un terrain favorable. Quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau peut-être de se poser sur sa tête, mais on peut l'empêcher d'y construire son nid. Et c'est vrai que le diable nous tente par toute espèce de pensée, toute espèce de chose de ce monde, et la convoitise de la chair et des yeux et l'orgueil de la vie, mais nous pouvons empêcher de nous bombarder. On peut empêcher que notre esprit, notre cœur devienne un terrain d'atterrissage de l'ennemi. On peut envoyer les missiles de Jésus-Christ pour contrecarrer les missiles du diable. Hein? C'est la guerre des étoiles. Mais nous avons la victoire en Christ et nous devons utiliser ces armes. On développera cela un peu plus tard. En Colossiens chapitre 3 et verset 5. La Bible dit quelque chose que nous n'aimons pas, nous les enfants de Dieu, parce que notre nature pécheresse voudrait prendre le dessus. Mais la Bible dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Vous savez, il y a un principe, Jésus a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Il faut que le grain de blé, sous l'effet de l'humidité, de la chaleur, enfoui dans la terre, se pourrisse pour donner naissance à la vie. On plante une graine qui est toute petite, et dans toute cette petite graine, il y a toute une puissance de vie qui tout d'un coup pousse et donne une tige extraordinaire. Jésus est mort à la croix pour nous donner la vie, et de même si nous mourons à nous-mêmes, parfois, malgré nous-mêmes, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose dans lequel on doit mourir. Jusqu'à la fin de notre vie, il y a un domaine qu'on découvre que le Saint-Esprit nous convainc de pécher, oui, qu'il faut abandonner, mais c'est dans la mesure où je meurs moi-même que la vie va jaillir de Christ dans mon cœur. Le principe de la mort qui donne la vie. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, ce qui est terrestre. Et on est tellement terrestre, bien-aimés, jusqu'à notre corps qui naît de la poussière, qui retourne poussière, c'est vrai. Mais nous avons tellement besoin d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Aussi, un autre passage face à la tentation, pour ne pas donner accès au diable. Quelqu'un a dit que le premier regard n'est pas péché, mais que le deuxième qui suit peut être péché, et c'est bien vrai. Nous avons besoin de fuir le péché. 1 Corinthiens 10, verset 14, la Bible dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Et vous connaissez l'histoire de Joseph, qui était un homme qui était très droit, qui a eu des épreuves terribles dans sa vie jusqu'à être le second de Pharaon. Vous connaissez son histoire dans la Bible. Et il était chez un maître Potiphar qui avait tellement confiance en lui qu'il avait tout laissé dans sa maison pour y régner et donner les ordres, sauf évidemment sa femme, qui pourtant a été séduite à un moment donné pour vouloir coucher avec Joseph. Et elle est arrivée devant Joseph plusieurs fois, elle a dit « Couche avec moi !» Imaginez cela. On pense toujours que c'est les hommes peut-être qui veulent poursuivre les femmes, mais là c'était une femme qui poursuivait un homme. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Mais ceci dit, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui. Il a même laissé son habit, elle l'a attrapé. Imaginez cette puissance de séduction dans laquelle il aurait pu tomber. Il a laissé son habit, il a fui. Puis après, évidemment, de colère, et puis, parce qu'évidemment, elle était très orgueilleuse, elle a dit, il a fui, c'est lui qui a essayé de m'abuser, et son mari l'a mis en prison, alors qu'il était innocent. Mais il vaut mieux être accusé faussement que de tomber dans le péché. Et Joseph n'a pas fait de compromis. Joseph ne s'est pas laissé séduire. Comment pourrais-je pécher contre Dieu et contre mon maître? Joseph a gardé les yeux fixés sur Dieu. Et il a fui le péché. Dieu nous demande de fuir la tentation, de fuir le péché. Et si nous devons couper des mauvaises habitudes dans nos vies, faisons-le pour fuir et nous éloigner le plus possible du péché. Alors c'est vrai pour chacun de nous, parce que nous avons tous des tentations, des faiblesses, dans lesquelles, des terrains plus fragiles dans lesquels Satan nous attaque. C'est pour ça qu'on dit que les croyants, plus ou moins selon leur personnalité, leur façon de se structurer, ont des faiblesses. Mais ces faiblesses, il ne faut pas que ce soit des faiblesses tellement faibles qu'elles donnent accès à l'ennemi. En tout cas, nous avons tous des endroits où c'est plus fragile. On va en parler dans un instant. Et puis, je ne peux pas lire peut-être tous les versets, mais je peux vous donner l'étude en entier, si vous voulez, avec plaisir, avec les versets. En 1 Pierre 2, verset 11, et on va terminer avec Jean chapitre... Allons, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, peut-être vous y êtes arrivé avant moi. Voilà, j'arrive. Chapitre 2, verset 11, il est écrit ceci... « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous n'avons pas besoin de nous exposer à des endroits où Satan va essayer de prendre le dessus. » Excusez, je pense à quelque chose, ce n'était vraiment pas prévu dans mon message comme exemple. Mais je vais vous le dire quand même. J'ai su parfois, et je ne porte aucun jugement là-dessus, hein, d'accord, on se comprend, que certains jeunes, pas particulièrement notre église, d'ailleurs je pense à d'autres personnes qui m'ont été rapportées, qui vont dans les boîtes de nuit. Mais quel est le but d'aller dans une boîte de nuit? Le sexe, la drogue et l'alcool. Mais il y a toutes sortes de dangers. Et je ne peux pas entrer dans des détails, mais quand un enfant de Dieu n'est plus à sa place, il est en danger. C'est pour ça qu'un croyant a écrit un jour un roman qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je croyais que c'était une histoire vraie, mais c'est un roman, Que ferait Jésus à ma place? Vous l'avez lu ce livre-là? Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et on peut ajouter aussi, est-ce que Jésus serait là où je suis? Et tout d'un coup, est-ce que Jésus regarderait ce que je regarde ou entend ce que j'entends, etc.? Ou pense que je pense? Et dire, ah, Seigneur, tu es la norme. Tu es la norme. Que ferait Jésus à ma place? Retenez ça ce matin. Que ferait Jésus à ma place? Est-ce que je suis à la place où Jésus est? Bon, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, exhorter comme étrangers et voyageurs, parce qu'on est de passage sur la terre. Oui, on est de passage, peu importe l'âge qu'on a, on est juste de passage sur la terre. Et nos yeux doivent rester fixés sur le ciel, parce que c'est là où nous allons vivre éternellement. Et on se réjouit tous et chacun à être là. Alors, je vais être un peu à la course, mais vous me pardonnez. Voilà, ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut... Oui. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Voilà la définition de la convoitise de la chair. Ah, tournez dans vos Bibles quand même, qu'on lise le passage. Et on va terminer avec cela. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a ce qui est terrestre, ce qui est spirituel et céleste, ce qui est charnel et ce qui est éternel. Donc la Bible dit, n'aimons point le monde. Quelle est la définition de la convoitise de la chair? La convoitise entre en jeu lorsque le désir naturel, certes légitime, sont déréglés tout spécialement dans deux directions, le domaine sexuel et les excès dans le boire et manger, entre parenthèses, gourmandise. Alors, je n'ai pas voulu prendre des tentations dans le domaine sexuel, vous comprenez pourquoi. Mais j'ai trouvé sur Internet une dame qui a l'air de se régaler avec, pas une petite plaque de chocolat, là. Vous avez vu la grandeur de la plaque de chocolat? On dirait que, oui, je commence un carré, mais je vais finir toute la plaque. On peut imaginer cela. J'ai rien contre manger le chocolat. J'aime manger beaucoup de chocolat. Ma femme a mangé beaucoup de chocolat quand elle était enceinte. Je ne sais pas si vous qui avez eu des enfants, si au moment d'être enceinte, vous avez été poussé à manger du chocolat. Il semble que c'est une des symptômes de la grossesse. Bon, bref, je passe cela. Il n'y a rien de mal à manger le chocolat. Il n'y a rien de mal à avoir des relations sexuelles dans le cas du mariage. Le sexe a été donné par Dieu pour en jouir. Et gloire à Dieu, c'est magnifique de jouir de la sexualité dans les liens du mariage. Mais il y a des dangers, et beaucoup de jeunes ou moins jeunes tombent. L'adultère qui est lié au divorce aujourd'hui. 55% en France de gens divorcent, souvent pour des raisons d'adultère. Je n'ai pas les statistiques sur l'adultère, mais la pilule, depuis qu'il y a eu la légifération de la pilule, il n'y a jamais eu autant de divorces dans la société. Donc, on donne la libération des mœurs, et parfois mal contrôlée. Je ne suis pas, bon, maintenant que j'ai parlé de la pilule, je veux dire, je ne suis pas contre la pilule, excusez, je ne m'attendais pas à dire tout ça ce matin. Bon, mais l'idée, c'est qu'il y a des choses qu'on peut prendre pour pousser les gens dans la sexualité et le boire et le manger qui tombent dans des excès. On peut boire un peu de vin. Bon, les Américains, des fois, ils ne veulent pas abstinence totale. Les croyants. Mais on peut boire un peu de vin, modérément. Mais si on boit trop, c'est dangereux. C'est une question d'équilibre, de modération. Alors j'ai marqué la solution ici, la modération. Mais il faut comprendre qu'au travers de la pornographie, au travers de toutes sortes de convoitises dans ce monde aujourd'hui, il peut y avoir des addictions qui poussent à un dérèglement sexuel en dehors des liens du mariage. Et c'est vrai pour la gourmandise, c'est vrai pour les excès de table, c'est vrai pour les excès de la boisson. Excusez ma franchise, mais c'est assez direct ce matin. Après, il y a la convoitise des yeux. Ce petit schéma que vous trouvez sous les yeux m'a fait un peu sourire quand je l'ai trouvé sur Internet. La convoitise des yeux produit le désir de posséder les choses que Dieu n'a pas données ou qui sont défendues. On peut vouloir posséder la femme de son prochain. C'est grave, cela. Alors, c'est attirance pour les choses matérielles, attirer l'attention sur soi-même. On peut, la convoitise des yeux, c'est de vouloir convoiter ce qui est autour de soi et de vouloir le posséder. sans que peut-être Dieu le donne. Il y a une différence entre « je prends » et « je reçois de la part de Dieu ». Moi, j'ai toujours le même verset pour tous ceux qui veulent se marier. Allez, je me lance, tant pis. Celui qui a trouvé une femme, c'est une grâce de la part de l'Éternel. Une grâce est un don immérité, c'est quelque chose que l'on reçoit. C'est pas quelque chose qu'on peut saisir, on ne peut pas faire ça devant Dieu, là. C'est s'agiter inutilement, dire « Seigneur, je m'humilie, je reçois ta grâce ». Et le mariage, c'est ça. Si vous êtes célibataire, il y a toujours l'espoir. C'est une grâce, c'est un don immérité. Et c'est quelque chose qu'on ne reçoit, pas que l'on prend. Mais je peux vous dire qu'au travers de quelques années de ministère, j'ai vu des jeunes hommes et jeunes filles vouloir prendre et puis se tromper, être tellement malheureux et faire de mauvaises expériences. Donc, c'est une grâce. Et la grâce, il faut la recevoir. La convoitise des yeux, c'est « je prends ». Voilà. Je prends ce... Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs... dans l'Amérique du Nord, qui s'endettent parce qu'ils voient toutes sortes de choses qu'on peut acheter à crédit. Ils s'endettent, et ils ont des crédits tellement élevés qu'ils font faillite. Ou des familles qui sont en désastre parce qu'ils ont eu la convoitise des yeux d'acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc ils payent à crédit, puis finalement ils sont en faillite. C'est la convoitise des yeux, l'amour du matériel. Alors, j'ai marqué ici comme solution. Alors vous voyez, j'ai trouvé un œil aussi avec le dollar au milieu. Je ne sais pas si vous le voyez, oui. On peut convoiter l'argent, hein, grippe sous. Bon, la solution, c'est garder les yeux fixés sur Christ, ayant les yeux fixés sur Christ. Rejetons tout péché et le fardeau qui nous enveloppe si facilement, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, et cherchez les choses d'en haut. Ah, j'aime ce passage. Vous le chantez des fois, on chante souvent « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais avec le même air, on peut chanter Colossiens 3, versets 1 et 2. Hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je ne vous chanterai pas, d'accord, le verset. Où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voulez-vous vivre pour cette terre ou pour l'éternité? C'est ça que le texte nous dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et c'est tellement plus heureux d'être en communion avec Jésus-Christ. On peut être pauvre et avoir le cœur tellement rempli de la joie du Seigneur que ça vaut toute la richesse du monde. La Bible dit « Contentez-vous de ce que vous avez » et combien c'est vrai. Et nous avons besoin juste de garder les yeux fixés sur Christ, les vraies valeurs sur cette terre, et chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est merveilleux de connaître le Seigneur, n'est-ce pas ? Il nous a donné une nouvelle perspective, le ciel. Un dernier passage, enfin aspect du verset. Je ne vois pas très bien de loin là. L'orgueil de la vie. Alors écoutez, vous lisez, la convoitise de la chair pousse à satisfaire les désirs dérégler notre mauvaise nature. Et le diable n'a pas trop de mal à nous pousser, vu qu'on a une tendance vers le mal et dans nos natures mauvaises. La convoitise des yeux amène à attirer à soi l'objet envié. L'orgueil de la vie, par contre, conduit à s'élever au-dessus des autres. L'orgueil se prévaut de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a. C'est subtil. L'orgueil, en fait, c'est un mensonge. Parce que je crois que dans le dictionnaire, c'est une façon excessive de se voir et de s'estimer. C'est une estime excessive de soi-même, l'orgueil. Alors voilà, je suis le plus beau. D'abord, j'ai toujours raison. Ensuite, je suis le plus beau, le plus riche, le plus intelligent. Regardez ce que j'ai fait. Regardez tout ce que je possède. Et puis, j'ai pris deux photos ici. L'un qui est au sommet, peut-être, qui dit, voilà, je suis au sommet, j'ai conquis le monde. Il y a des dictateurs dans ce monde aujourd'hui qui disent, voilà, j'ai conquis le monde. Hein. Bien riche et bien totalitaire, violent souvent, mais quelle pauvreté dans leur cœur. Et un jour... S'ils ne se repentent pas, ils vont passer l'éternité en enfer. Et puis il y a Jésus qui est serviteur et qui lave les pieds de ses disciples. Et qui leur dit, vous voulez alors me suivre, soyez serviteur, comme moi je suis serviteur à l'instant en vous lavant les pieds. Jésus est venu avec un cœur tellement humble, ayant descendu du ciel, il s'est fait homme. Pour être dépendant entièrement de Dieu le Père, malgré les attaques de Satan et du monde environnant, et de gens qui l'ont tué finalement. Jésus est allé jusqu'à la croix par amour et par dépendance envers Dieu le Père, obéissance, en vue des choses qui lui étaient réservées. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pour qui, pourquoi nous allons-nous la vivre? Oui, le diable est puissant. Mais nous pouvons, nous, en tant qu'êtres humains, donner accès au diable, permettre que ces avions atterrissent. Ne soyons pas des terrains d'atterrissage à l'ennemi ou des portes ouvertes à l'ennemi ou entrouvertes. Parce qu'une porte entrouverte, il est très facile de pousser plus et qu'elle s'ouvre entièrement. Veillons, par la grâce de Dieu, à garder nos cœurs bien-aimés, proches du Seigneur. Et c'est un défi pour chacun de nous, bien sûr, afin d'éviter et de combattre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Un jour, nous passerons tous au tribunal de Christ. Et sur cette terre, pour qui allons-nous vivre? Pourquoi allons-nous vivre? Pensons à cela. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Mais nous allons passer l'éternité avec Dieu pour ceux qui avons accepté le Seigneur. Vivons dans la bonne perspective pour l'éternité. Amen. Prions.